Gilles Paris est avec nous pour un livre, un récit, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est publié aux éditions Flammarion avec un sous-titre, De l'ombre à la lumière. Alors Gilles Paris, bonjour.
Bonjour.
Si dans vos précédentes publications, vous vous êtes, on va dire, livré, d'abord ça a commencé un peu par procuration avec Autobiographie d'une courgette et puis les autres, mais cette fois-ci j'ai vraiment le sentiment que vous êtes allé encore plus loin. C'est sans doute votre livre le plus intime, le plus personnel. Vous y racontez, on va dire, votre calvaire rythmé par 8 dépressions, à la fois les périodes de désespoir, les séjours en hôpital, établissement psychiatrique, le bord du gouffre, et puis, heureusement, au moment où tout pourrait basculer, il y a une sorte de lumière qui vous accroche et qui vous sort jusqu'à la prochaine, on va dire. Le point de départ, c'est une violence de l'adolescence et une phrase de votre père. Vous dites d'ailleurs dans le début du livre, je ne peux pas dire papa, cette phrase c'est « Tu n'es qu'une merde, tu ne feras jamais rien de ta vie ». C'est quoi ? C'était un manque de considération ou un manque d'amour ?
Je pense que c'était une colère. Mon père était plutôt quelqu'un d'assez colérique. Il n'était pas violent. Il a été avec moi, bien sûr, une ou deux reprises. Mais je pense que quand on est en colère, des fois, on dit des choses qui dépassent la pensée. Le seul problème, c'est que cette phrase, en effet, « Tu ne feras rien de ta vie, tu es une merde », est quelque chose qui a résonné en moi longtemps. Et j'avais l'impression, chaque fois que dans ma vie j'avais un échec, ça me ramenait à cette phrase automatiquement, comme une espèce de point d'ancrage. Et c'est pour ça que, oui, j'ai connu 8 dépressions, en effet, mais j'ai surtout connu 8 remontées, c'est-à-dire que je les ai toutes vaincues. Aujourd'hui, j'en suis heureusement sorti. Et c'est vrai que c'est peut-être probablement ces épreuves qui m'ont rendu plus humain, plus à l'écoute des autres, plus empathique peut-être. En tout cas, la phrase ne m'atteint plus de la même manière aujourd'hui.
Tout ce qui s'est passé, vous le racontez de façon très sereine. C'est presque avec retenue, il n'y a pas de haine, il y a peut-être même un étonnement. À jamais vous vous plaignez finalement.
Non, d'abord c'est pas dans ma nature. Never explain, never complain, comme on dit, comme disent très joliment les Anglais. Oui, non, c'est pas dans ma nature. Et puis je crois que surtout, s'il y a une distance par rapport aux faits, et cette distance est assez salutaire. Je pense pas que j'aurais pu écrire un livre pareil, traversant par exemple une dépression ou m'en sortant à peine. Je crois qu'il me fallait un peu de temps avant de regarder tout ça avec, en effet, une certaine distance pour. Vous savez, quand on pardonne dans la vie, en fait, on commence par soi, on se pardonne à soi, et après, on a la possibilité de pouvoir pardonner aux autres et d'essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle ils se sont conduits ou emportés ou ils ont réagi de telle ou telle manière. Je crois qu'il faut essayer de comprendre et de se mettre un peu à la place des autres de temps en temps.
Vous vous mettez à la place des autres, vous vous mettez à la place de votre père, qui est quelque part l'élément déclencheur, mais aussi de votre maman, de votre sœur, de vos proches. Est-ce qu'il y a une forme d'incompréhension chez eux je parle pas de votre père, mais de votre mère ou de votre sœur à un moment.
Ma mère était une femme, elle est décédée du Covid en avril dernier. Ma mère était une femme à la fois présente et à la fois distante. Elle s'est toujours considérée plus comme une épouse que comme une mère. Et donc cette forme de distance qu'elle avait envers ma sœur et moi, surtout envers moi quelque part, fait que elle a tellement souffert de son divorce, elle s'est tellement enfermée dans une tour d'ivoire, que je ne pouvais que la comprendre et lui pardonner. Quant à ma sœur, c'est autre chose, c'est vraiment elle qui m'a réconcilié avec le mot « famille ». J'étais plutôt fâché avec la famille au sens traditionnel et large du terme. Et ma sœur a vécu 30 ans au Canada, donc on s'est à peine vu, je l'ai vu, me suis rendu au Canada à plusieurs reprises. Elle est venue aussi à Paris de temps en temps quand elle le pouvait. Mais c'est surtout sa maladie, elle a eu une greffe du foie, et je l'ai assistée, j'ai été très présent avec elle. Et en fait, nos rendez-vous hebdomadaires ont fait qu'on s'est à la fois, non seulement, c'est plus que réconcilié, elle m'a vraiment remis sur le rail de la famille, en fait. Et je lui dois ça. C'est une complicité hors norme entre un frère et une sœur, qu'a priori tout sépare peut-être au départ, mais qui se réconcilie sur le tard.
Alors vous parlez de famille, mais vous aviez trouvé une autre forme de famille, une famille un peu de substitution par votre profession. Vous êtes attaché de presse, vous avez, je pense, presque toujours été attaché de presse dans l'âme. Est-ce que ça a été une sorte de plateforme de survie, justement, qui a exacerbé cet intérêt, cette empathie pour les autres, pour les auteurs que vous avez défendus ? Alors ça, je dirais le jour, parce que la nuit, vous plongez dans une autre famille, celle de l'enfer, de l'oubli, soit soirées, drogue, alcool, sexe, une forme de côté Janus, corps de côté Janus.
Ça, c'était quand j'avais 20 ans, 30 ans. J'en ai 60 aujourd'hui et c'est vraiment loin derrière moi. Mais c'était intéressant de raconter aussi ce parcours un peu peut-être atypique d'excès divers. J'ai appris avec le temps que certains excès sont bons et d'autres le sont moins. Donc ceux qui le sont moins, je les ai laissés vraiment derrière moi. Et même si je me suis créé des familles au sein de l'édition et même en dehors de l'édition, rien ne vaut la famille originelle. On le sait, hein, on le sait quoi qu'il arrive dans nos familles. Et je pense que ce lien dont je parlais avec ma sœur est un lien vraiment fort et beaucoup plus fort que tout ce que j'ai créé en parallèle et en substitution d'une certaine manière.
Et puis, il y a une autre forme, une autre plateforme de survie, c'est Laurent, votre rencontre. Et à chaque fois que vous écrivez, à chaque ligne, on sent qu'il est là tout le temps. Quand commence une nouvelle dépression, il vous aide à tenir, à vous maintenir la tête hors de l'eau, je dirais. C'est ça qui a été aussi un élément où à un moment, vous avez pensé que ça vous retenait, ou est-ce que vous pensez que ça aurait pu lâcher?
Non, j'ai eu la chance de rencontrer Laurent il y a 20 ans maintenant et on forme un couple vraiment fort. C'est vrai qu'il a été très présent pendant la dépression. Vous savez, dans les couples, quand on traverse une épreuve comme celle-ci ou une autre d'ailleurs, ça passe ou ça casse, comme on dit. Donc Laurent est resté. Bon, on s'est engueulé, on est comme tous les couples, hein. On a eu des moments difficiles aussi. Ne serait-ce qu'à travers ces maladies, parce que on parle beaucoup de ceux qui la ressentent, on parle moins de ceux qui vivent à côté et qui se sentent totalement impuissants, qui ne savent pas quoi faire. Mais sa présence, vraiment seule et sa façon d'être, a été vraiment plus que salutaire pour moi.
Alors chaque dépression, bien évidemment, est différente. C'est un combat de longue haleine parce que ça dure sur le temps, voire les années. On peut cohabiter avec cette bête qui vous ronge.
Oui, bien sûr, on peut cohabiter. C'est d'ailleurs la dernière dépression que j'ai faite. C'est la seule qui n'a pas été suivie d'hospitalisation. Et quand j'ai senti qu'elle venait en moi, parce qu'on le sent, hein, c'est comme une bête en effet qui prend possession de votre corps. En plus, les médicaments qu'on prend, les antidépresseurs, ont tendance à ralentir les actions qu'on a au quotidien. Mais j'avais décidé à ce moment-là de lutter contre elle, vraiment lutter, c'est-à-dire de faire comme si la dépression n'était pas là, de continuer à travailler, de me lever, de regarder la télévision, de regarder des films, enfin bref, d'avoir une vie à peu près normale. Et c'est la plus courte dépression d'ailleurs que j'ai faite. Elle s'est soignée et guérie d'une façon d'ailleurs qu'aucun médecin n'a réellement compris, parce que si deux dépressions ne sont pas semblables, en général, on parle de 8 mois pour traverser une dépression, 1 an pour pouvoir s'en sortir, puisqu'il faut ensuite baisser peu à peu les médicaments qui sont votre quotidien. Et ça prend du temps. Celle-ci, la dernière, n'a duré que 3 mois, ce qui est très exceptionnel dans la durée, même si j'ai quand même connu derrière plus d'un an, en effet, de gainage, comme je le dis dans le livre, en relation avec le sport que je fais plusieurs fois par semaine. Gainer ma pensée, en effet, et ne pas toujours m'écouter, et arriver à trouver des choses qui me permettaient de remonter la pente.
C'est l'univers aussi des hôpitaux psychiatriques que vous décrivez. Des gens cassés, des gens cabossés, des gens dont le regard est vide. Comment on peut vivre à côté de ces gens ? J'ai l'impression que vous les regardez justement avec aussi une forme d'empathie.
Oui, parce que moi, je ne les vois pas forcément comme des gens cassés. Je les vois comme des gens particulièrement humains, peut-être plus que ceux qui sont en dehors des hôpitaux. Pour la plupart, en dehors de ceux qui sont bien sûr enfermés, qui sont un peu dangereux, ceux qui ne le sont pas sont particulièrement gentils. Ils ont une espèce de gentillesse naturelle, d'émotion à fleur de peau et d'humanité. Ce sont eux aussi qui m'ont profondément aidé à m'en sortir. Vous savez, la première fois que j'ai su que j'allais aller à Sainte-Anne, j'étais un peu effrayé. Voilà, on a cette image de chapeau pointu et pas du tout, en fait. En fait, on se retrouve avec des êtres humains qui sont fragiles, certes, qui ont une notion des choses que vous n'avez pas vous-même forcément, c'est-à-dire cette espèce de... Moi, quand on me parle d'une roue qui tourne, ben, ça veut dire qu'on passe à autre chose et qu'on évolue. Pour eux, non, la roue tourne en arrière. Et ça, c'était une image pour moi qui m'avait particulièrement frappé dans les hôpitaux et les cliniques où je suis allé, nombreux d'ailleurs. Mais surtout, j'ai un souvenir, même si je les ai jamais revus en dehors. J'ai un souvenir vraiment de partage et d'humanité avec eux.
Au fil de la lecture, j'ai pensé que vous aviez écrit ce livre comme un acte thérapeutique, un exutoire un peu définitif, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui vous a guidé à faire ce livre ?
C'est vrai, c'est pas du tout ça en fait, parce que la thérapie, j'ai fait une analyse de 25 ans, alors pas 25 ans mis bout à bout. Il m'arrivait de ne plus voir mon psychanalyste pendant un certain nombre d'années, et puis de retourner le voir quand j'avais un épisode. Mais ces 25 ans d'analyse, c'est très particulier l'analyse. C'est quelque chose, c'est une introspection sur soi, c'est un travail sur soi, c'est pas toujours agréable, mais ça peut être agréable aussi comme une conversation qu'on aurait avec un ami, même si cet ami est un professionnel. L'écriture n'est pas une thérapie pour moi du tout, elle est au contraire, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est quelque chose de viscéral. J'ai commencé à écrire même bien avant d'être attaché de presse, et c'est quelque chose qui m'a toujours sauvé d'une certaine manière. L'écriture est vraiment... C'est une éditrice, en fait, qui avait vu un article sur moi. Et dans cet article, on va dire que j'approchais, je commençais à parler un peu de ce qui m'était arrivé, mais je retenais le tout. Et elle avait senti que derrière cette retenue, il y avait des choses peut-être à dire. Et c'est elle qui m'a poussé à écrire ce livre, en fait. Elle s'appelle Véronique de Bure. C'est mon éditrice chez Flammarion. Et c'est vraiment, je lui dois tout, hein, par rapport à ce livre, parce que sans elle, je ne sais pas si j'aurais eu un jour l'envie ou l'idée peut-être, mais l'envie d'écrire ce livre, je ne crois pas. C'est elle qui m'a poussé à le faire et je ne le regrette évidemment pas aujourd'hui.
Gilles Paris, donc bien sûr, chacun son histoire, son passé, ses blessures, oui. Ses désespoirs. Mais est-ce que ce livre, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider des personnes proches qui ont ces cas ou qui sont dans la dépression à démontrer que l'insupportable est guérissable ?
Absolument, je l'espère en tout cas. Et les premiers témoignages que j'ai, que je reçois, me le montrent aussi. Je pense que c'est pas un livre que j'ai écrit pour aider les gens, mais je pense que ça peut les aider. Parce qu'en fait, il faut toujours, vous l'avez dit vous-même, il faut le répéter, deux dépressions ne se ressemblent pas. Moi, j'ai trouvé les outils et la matière pour pouvoir m'en sortir. Ces outils et cette matière, ils existent entre chacun de nous. Chacun doit trouver sa voix pour s'en sortir. Je pense que, je le dis et je le répète dans le livre, c'est pas les épreuves qui comptent dans une vie, c'est ce qu'on en fait au fond finalement, et c'est cette manière qu'on a de pouvoir s'en sortir qui nous rend d'une certaine manière victorieux, en tout cas sur ce moment-là.
Un dernier mot sur le titre, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est un titre qui vous a été soufflé, je dirais, par un médecin.
Tout à fait, par un médecin, à l'issue d'une tentative de suicide, la dernière d'ailleurs. Et il était assis à côté de moi et il m'a dit cette phrase qui a été vraiment quelque chose qui a fonctionné en moi comme un électrochoc. Et il m'a dit, vous savez, avec ce que vous avez pris, quelqu'un d'autre y serait resté. Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. Et c'est ce qui m'a donné, évidemment, l'idée de ce titre. C'est-à-dire que ce titre aussi sous-entend certains cœurs lâchent pour trois fois rien, mais pas le mien. Voilà. Le mien résiste, le mien combat. Voilà, d'une certaine manière.
Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, Gilles Paris, de l'ombre à la lumière, et c'est publié aux éditions Flammarion. Merci Gilles Paris.
Merci infiniment, merci à vous.